Église du Lot. Balade découverte des églises et chapelles de notre département. Avec Martine Dufour et Marie-Madeleine Rey.
Bonjour chers amis auditeurs, nous nous retrouvons pour notre chemin des églises du Lot, à nouveau dans l'église d'Augol, cette magnifique église avec énormément de choses intéressantes à l'intérieur. Et nous étions dans la chapelle Saint-Joseph, et il y a une petite précision sur un des trois panneaux où se trouvent les noms des bienfaiteurs de l'église d'Augol. Et je salue tout de suite Stéphanie Kubain. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Bonjour Jacques et Marie-Rose Tournou.
Bonjour.
Et Marie-Madeleine, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors Stéphanie, il y a une petite précision sur ce panneau dont je viens de parler, aux bienfaiteurs de l'église d'Augol. Quelle est cette précision ?
Alors, c'est qu'on retrouve sur ce panneau donc Jean-Baptiste Roquetanière, qui serait un ancien donc curé d'Augol, et c'est lui qui aurait commandé en fait le chemin de croix, qui serait hypothétiquement arrivé par la voie de chemin de fer par Arcambal.
D'accord, mais Arcambal, on n'en est pas loin effectivement, de toute manière. Très bien, merci pour cette précision, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de noms. Il y a certains Kubain Lucien, Kubain Maria, Kubain Köhl, mais je ne pense pas que ça a à voir avec vous, peut-être.
Kubain, il y en a beaucoup. Hein,
voilà. Marie-Madeleine.
Alors, pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté les deux émissions précédentes, Stéphanie parle de chemin de croix. Ces chemins de croix sont quasiment monumentaux. Ces stations de chemin de croix sont monumentales car elles mesurent 2 mètres de haut. Elles sont en terre cuite, en fort relief. Et les personnages doivent faire à peu près 1 mètre de haut. Hein. Donc c'est très conséquent. Et arriver par le train, ça a dû être quand même un transport assez important.
Tout à fait. Et assez lourd.
Et un événement dans la région.
Tout à fait. Donc nous sortons de cette chapelle dédiée à Saint-Joseph et nous remontons vers la porte d'entrée. Donc nous sommes toujours dans la partie 19e siècle. Je rappelle que l'entrée de cette église est datée du 14e, la deuxième partie de l'entrée est datée du 12e et que là nous sommes dans la partie du 19e siècle. Alors, en allant vers la... Vers la droite, nous apercevons dans un premier temps on va dire un panneau dédié aux morts de la guerre 14-18, oui. Ce qui se fait beaucoup dans les églises apparemment du Lot.
Oui, on en a trouvé un peu partout. C'est un monument aux morts, hein, si on peut dire, voilà. De la guerre de 14-18, aux enfants d'Augol, morts pour la France. Et il y a un certain nombre de noms, donc... qui sont déclinés en dessous avec des palmes et la croix de guerre.
Voilà. Et alors, au-dessus de ce monument aux morts, nous retrouvons alors un oculus, Marie-Madeleine.
Oui, un vitrail rond, donc. Alors, pour moi, c'est une énigme parce que il comporte au centre une sorte donc dans un espace. Ovale, hein, une sorte d'amande, eh bien, il comporte 3 signes, mais il me semble que le terme d'Augol, le nom d'Augol, signifie...
Pour revenir de eau jaillissante.
Voilà, eau jaillissante. Et ce serait donc 3 jets d'eau, si on peut dire, 3 jets d'eau qui sortent de terre. Qui seraient donc les armes de la ville d'Augol, de la cité d'Augol.
Ça se trouve d'ailleurs, il se trouve ces trois jets d'eau, si c'est bien cette représentation, dans une forme d'amande.
Oui, dans une mandorle, c'est le nom italien, hein, mandorle qui veut dire amande, et sur un fond donc bleu ciel.
Mandorle dont est tiré le nom de mandoline, puisque c'est en forme d'amande.
Voilà.
D'accord.
Et donc, alors, l'entourage est toujours pareil, un décor tout à fait 19e, géométrique et végétal.
Alors, en continuant sur notre droite, nous apercevons toujours ces panneaux du chemin de croix et nous avons Une belle Vierge.
Oui, une Vierge en bois doré, 19e, qui est posée sur la terre, sur le monde, voilà, et qui tend ses bras vers tous ceux qui la prient.
Mmh. Alors, en traversant, on va dire, de droite et de gauche, mais nous repassons par la grille. Alors, quelques petites précisions sur cette grille que nous voyons. Donc, au début de la première émission, Geneviève de Jean, Madame la maire de Dojolles, nous avait précisé pourquoi la construction de cette grille. Mais elle a une particularité parce que lorsque nous rentrons dans l'église pour un événement quel qu'il soit, Marie-Rose, apparemment, on ne la voit pas quand tout est ouvert.
Non, elle peut disparaître complètement sur les côtés et laisser l'espace libre pour le passage en permanence.
Mm-hmm.
Elle peut se rabattre complètement.
Très, très bien été conçue.
Oui.
Peut-être quel en est le concepteur.
Madame le maire nous a donné le nom du ferronnier d'Aujolles, le forgeron, qui s'appelle Laurent Estève. Et qui travaille toujours. Je ne sais pas si vous voulez donner d'autres précisions.
Il est très jeune, apparemment, oui.
Oui, il est plutôt jeune, oui.
C'est bien.
Très bien. Et là, nous apercevons, en levant les yeux, bien sûr, cette magnifique perspective jusqu'aux vitraux que nous apercevons en face, dont vous avez décrit au début de la première édition. Voilà,
la création. Dieu qui crée le monde.
Et nous avons aussi cette vision de ces chapiteaux et de ces piliers.
Oui, avec ces arcs romans, puisque nous sommes entre le XIIe et le XIVe siècle. Donc nous avons deux beaux arcs, plein romans, plein cintres, et avec des chapiteaux ornés de végétaux, mais plus ou moins stylisés. Il y en a quatre différents. Et voilà, ça reflète bien l'époque du Moyen-Âge, et surtout avec la voûte en berceau entre les deux parties, voilà.
Mmh. Alors, lorsque nous approchons de cette grille, nous allons continuer après la description vers la gauche, mais nous apercevons un grand trou au-dessus. Jacques, je pense que c'était les... C'était pour tirer les cloches.
Il y a les trous pour les cordes des cloches,
voilà.
Oui.
Pour faire sonner parfois, les cloches, oui. Voilà. Alors, Jacques, pouvez-vous nous parler des cloches, justement?
Oula, les cloches, pour le moment, c'est moi qui suis chargé de sonner les cloches lorsqu'il y a un enterrement ou avant une messe, parce que la personne qui était chargée auparavant est partie dans une maison de retraite, donc comme nous habitons juste à côté de l'église. Mmh. C'est nous qui sommes chargés de ça.
Alors, elle sonne toutes les heures,
Non, il n'y a que l'Angélus qui sonne le matin, midi et soir.
D'accord.
Ça, c'est électrifié, c'est automatique.
D'accord. Est-ce que vous avez connu l'époque où, justement, on sonnait en tirant les cloches?
Oui. Oui, c'était toujours la même famille qui a sonné les cloches là, pendant longtemps. Jusqu'à dernièrement, l'année dernière.
Mmh. Ah oui, quand même, oui, c'est important. Madame Tournoux, Paris-Rose.
Moi, j'ai connu l'époque, effectivement, quand j'étais enfant, et même après, où on sonnait la cloche.
Quelle était cette famille? Comment elle s'appelait?
Alors, elle s'appelait Bergognous.
Ah, voilà, Bergognous, qui était un bon nom du coin, bien sûr.
Oui, mais... On a connu plusieurs familles qui se sont succédées.
Jusqu'à l'année dernière, apparemment.
Oui.
Jusqu'à cet hiver.
Ah, bien. Ah, très bien. Effectivement, oui, c'est une... comment dire, quelque chose qui se perd, qui s'est perdu avec l'électrification des cloches. Mais dans certaines églises, il y a encore les cordes et on fait sonner les cloches avec les cordes pour certaines églises que nous avons déjà visitées. Alors, nous continuons... Notre tour, nous sommes toujours dans la nef 19e, nous continuons notre tour et à gauche nous apercevons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Marie-Madeleine.
Thérèse de l'Enfant Jésus qui porte la croix en trouée de rose, elle est vêtue comme les carmélites avec une cape blanche et une tunique, une robe de bure brune, voilà, et le voile noir.
D'accord. Et au-dessus ?
Au-dessus, donc, un vitrail rond, de nouveau, où l'on voit donc toujours dans un espace en forme d'amande, c'est-à-dire forme de sportel de rocamadour, hein, les sportels de rocamadour ont cette forme-là, avec la représentation du baptême du Christ, mais alors très très naïve, on dirait deux enfants.
Ah oui, effectivement.
Hein, voilà, on dirait deux enfants. Et il se trouve que... Alors, il y a un petit donateur dessous qui est à genoux. Mm-hmm. Voilà, c'est le prêtre, mais c'est possible que ce soit le recteur canonique.
D'accord.
Voilà, du
oui.
17e siècle, hein, qui avait cette arme-là, hein, ces armoiries-là.
Que nous avons encore dans le village.
Voilà.
D'accord.
Oui.
D'accord.
Sur une pierre, hein, c'est
sur
une pierre
sculptée. Oui.
Voilà.
Non, c'est une pierre, je sais pas.
Gravée, peut-être.
Comme on fait les lithographies, là.
Ah oui. Ah oui.
On l'a dans la
une pierre lithographique, d'accord. D'accord. Mm-hmm. Très bien. Voilà. Et toujours entourée de ce décor qui est le même que celui du vitrail d'en face.
Et nous lisons au bas de cet oculus, don de Jean Fraisset et de Marie Amalric. Voilà, donc comme du 19e
village. Femme du 19e.
Fraisset, c'est une vieille famille du village aussi. C'était mon nom de jeune fille.
Ah, ben voilà. Donc,
mais enfin, c'est pas. Je sais pas quel est le lien de parenté.
Stéphanie, vous qui vous êtes mariée dans cette église et où il y a eu baptême et obsèques, etc., comment vous la trouvez, votre église, en tant que paroissienne?
Mais très jolie, magnifique.
Voilà.
On s'y sent bien, c'est une très jolie église.
Tout à fait, on s'y sent bien parce qu'elle est, Marie-Madeleine, elle est vaste quand même.
Oui, elle est ample, on peut y cheminer tranquillement et vraiment je pense que les célébrations qui ont lieu ici doivent être empreintes de piété, je dirais, hein, parce que ça porte à la prière.
Nous revenons dans le cœur de cette magnifique église d'Augeolles pour nous rendre dans la sacristie et nous allons remonter les trois marches du cœur, voilà, et il y a ce qu'on appelle un mur, ou qu'il y avait peut-être un mur de communion, Marie-Madeleine, est-ce que ça peut correspondre à cela?
C'est une sainte table, oui.
Voilà.
Oui,
hein,
une sainte table en marbre, cette fois-ci. Enfin, la tablette est en marbre, et le reste est en calcaire.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette tradition de prendre la communion au-dessus de cette table?
Jusqu'en 1965 environ, Vatican II, hein, les églises étaient munies donc de cette sainte table, c'est-à-dire soit une grille, soit une balustrade en pierre ou en brique, ou selon les lieux. Et lors de la communion, les paroissiens s'agenouillaient devant la Sainte Table, le long de la Sainte Table, et prenaient la communion sur la langue, évidemment, à l'époque. Hein. Voilà.
D'accord. Donc, nous allons nous rendre donc dans la sacristie, donc la porte qui se trouve à gauche du chœur. Donc, une grande sacristie, très, très vaste. Oh, avec un très joli meuble que nous voyons tout de suite en rentrant, Marie-Madeleine.
Eh bien, c'est un meuble de sacristie, oui, qui longe le mur et qui épouse sa forme. Hein, mm-hmm. Voilà. Donc, il y a deux portes à gauche, deux portes à droite, et au centre, donc, une desserte, si on peut dire, avec des tiroirs et des portes, mm-hmm. et surmontée, de tiroirs, de multiples tiroirs, où l'on voit quelques inscriptions. C'était pour ranger les linges liturgiques. On voit lavabo, c'est-à-dire le linge pour essuyer les doigts lors du lavabo. C'est le terme latin, hein, je me lave les mains. Hein. Les nappes, le purificatoire, les cordons, voilà, c'est
les corporaux.
Les corporaux, voilà, les pales. Et il est très beau, ce meuble. Mm-hmm. Il est très, très beau parce qu'en dessous de ces tiroirs donc de linge, il y a encore des petits tiroirs mm-hmm. avec des anneaux où on tire. Voyons. Bon, il n'y a rien dedans, mais c'est très joli. Et puis dessous, il y a des colonnettes où on devait mettre les petits vases, etc.
Voilà. Et alors, sur ce meuble, se trouve une pierre, Marie-Madeleine.
Oui, une pierre sur laquelle il y a une étiquette collée avec imprimé, donc, la fameuse sportelle du recteur canonique de l'époque, c'est-à-dire du XVIIe, XVIIIe siècle, qui représente le baptême du Christ que nous avons décrit dans le vitrail du côté nord de l'église.
Très bien, Jacques Tournoux vient de nous ouvrir deux portes. Alors, la première porte, tout de suite à droite, à gauche de ce meuble, se trouve alors voilà. Un magnifique ostensoir.
Un ostensoir, oui, en métal doré et avec des incrustations d'émaux, apparemment, oui. Des émaux avec donc le Christ au-dessus. Non, ce sont les symboles des évangélistes, je pense, voilà. Les quatre symboles des évangélistes. Et en bas, donc, des petites statuettes avec sans doute les papes ou les prophètes. Il y a le Christ, mais ils sont petits et ce n'est pas évident à décrire. Voilà, mm-hmm. Il y en a quatre.
Et alors, lorsque nous fermons cette porte, nous en ouvrons une autre, où se trouve
une chape en fil d'or, hein, finalement, rebrodée. Elle est très belle.
Voilà, nous en approchons.
Oui. Elle est très très belle.
Elle est quand même en très bon état.
Et puis il y a la chape pour les funérailles, noire et argent.
Voilà, donc nous sommes dans cette première sacristie qui se trouve à gauche du chœur. Ah, il y a quelques livres qui se trouvent là, tout de suite dans un meuble.
Des missels romains, 19e. Voilà. Il y en a cinq. Voilà, puis de plus anciens, il y a des 18e et 17e qui sont un peu abîmés, mais enfin qui restent à protéger.
Alors, nous allons ressortir de cette sacristie pour aller alors dans une autre. Ah voilà, nous changeons d'acoustique. Nous retrouvons l'église, bien sûr, le chœur. Et nous allons en face ouvrir une autre porte. Voilà. Et il y a une autre grande pièce. Avec également une armoire, mais plus moderne, sur le côté droit.
Ce sont des placards successifs, il y en a cinq, voilà.
Avec une croix, là, qui se trouve tout de suite sur le mur.
Et une croix de procession, oui, avec le Christ sur la croix, bien sûr, et l'indication, le petit panneau, le petit linge, sur lequel sont inscrites les lettres INRI. I-N-R-I, je suis le roi des Juifs.
Voilà. Madame Tournoux.
Je voudrais préciser que pendant l'hiver, quand les célébrations ont lieu ici, parce d'accord. que c'est une sacristie qui peut être chauffée.
D'accord.
Et on arrive à contenir une vingtaine de personnes, et, oui. ce qui est suffisant c'est pour oui. le moment.
C'est agréable parce qu'il y a une moquette.
Oui. Voilà. Voilà, oui, oui, oui. Tout ce qui peut préserver du froid. Donc nous retournons dans le chœur. Nous retournons dans le chœur, nous allons changer d'acoustique à nouveau, voilà, une acoustique beaucoup plus ample. Et nous allons maintenant sortir de cette église, donc nous descendons les trois marches du chœur, et nous allons traverser la nef pour nous rendre à l'entrée de cette magnifique église d'Augeolles, dans la partie 12e. Donc voilà, nous passons la grille. Et tout de suite, à notre gauche, Marie-Madeleine, un tableau.
Voilà, un très grand tableau qui représente Sainte-Marie-Madeleine. Et alors, le fond est très sombre, très très sombre. On voit bien Sainte-Marie-Madeleine. Alors, elle a la main gauche sur le cœur et la main droite. Elle offre sa vie, elle offre la fin de sa vie, sans doute... elle offre sa vie, voilà. Mais c'est très sombre et on ne distingue pas ce qu'il y a au fond. Là aussi, il faudrait un petit nettoyage.
Donc plusieurs peut-être petites restaurations au sein de cette église d'Augeolles. Nous lançons l'appel qui a déjà été lancé par Madame la maire.
Mais déjà, elle est très bien entretenue, cette église. Et c'est pour les habitants et pour les visiteurs, c'est très agréable.
Alors tout de suite à droite de ce tableau, Marie-Madeleine, se trouve une magnifique croix en bois.
Oui, là aussi une croix de procession en bois, avec donc le Christ posé dessus, ses pieds sur une petite sellette. Alors là, il a quatre clous. Il y a quatre clous, les deux mains et les deux pieds. Mais normalement, il y en a trois qui sont symbolisés ici sur cette croix par trois fleurs de lys qui sont en fort relief, hein, qui sont sur des tiges, posées sur des tiges, au sommet de la croix et de part et d'autre de la croix transversale.
Alors, nous allons ressortir de cette église parce que elle était attenante au château.
Avant qu'il n'y ait cette partie 19e, il était attenante au château. Alors nous sortons parce que nous apercevons juste en face, Marie-Madeleine, l'ancien château d'Aujol.
Le château d'Aujol, donc, dont on voit un mur très important avec des ouvertures diverses et variées. Donc le château doit dater à peu près du 12e siècle. Mais il y a des restaurations Renaissance hein, au milieu avec des fenêtres à meneaux. Et donc, entre l'église et ce mur, il y avait une porte. Mmh. Il y avait une porte qui reliait donc le château à l'église. Et l'église faisait partie du château, évidemment, c'était la chapelle du château. Mmh. Voilà.
Nous retrouvons ça beaucoup, Marie-Madeleine, les églises attenantes au château, et notamment pour ne pas faire de parallèle, mais la semaine dernière, nous étions encore à Flochac-Poujol et l'église était à l'arrière du château, pas placée où elle est actuellement.
Mais c'est très fréquent et ça relie toutes ces architectures à l'histoire de France. Mmh.
Eh bien, écoutez, nous terminons cette troisième émission à Aujol. Merci Stéphanie Kubain de nous avoir accompagnés pendant ces trois émissions.
Merci.
Merci Marie-Rose et Jacques de nous avoir apporté toutes ces précisions très riches et importantes pour nos auditeurs et pour nous-mêmes.
Merci à vous d'être
venus. Merci.
Merci Marie-Madeleine.
Merci, avec plaisir.
Pour toutes vos explications, toujours très intéressantes et dont nos auditeurs sont friands. Au revoir à tous.
Au revoir.
Au revoir.
Et à la semaine prochaine.
C'était Église du Lot. Votre balade hebdomadaire des églises et chapelles de notre département. Présenté par Martine Dufour et Marie-Madeleine Reille.